un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
La scène se passe le 16 mars dernier et la vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Un journaliste de l'Oopsider, qui porte apparemment un brassard noir estampillé presse et couvre une manifestation, se fait charger puis gazer en plein visage par les policiers de la Brave M. Il se démène, il crie, il s'égosille, il se justifie. « Je fais mon travail, je suis journaliste, j'ai ma carte de presse, arrêtez, laissez-moi travailler. » « Dégage, rentre chez toi », lui répondent les policiers, pas très impressionnés, qui lui intiment l'ordre de reculer et ne semblent se calmer que lorsqu'il leur précise que tout ça est filmé. Une autre séquence, abondamment relayée lors des récentes mobilisations, montre un jeune homme qui tend désespérément sa carte de presse aux forces de l'ordre qui continuent à avancer vers lui sans ciller. Tout de suite dans Les Pieds sur Terre, on vous raconte deux autres histoires de confrères qui ont été battus ou inquiétés pour des raisons parfois étonnantes. Le premier, Clément, est un collaborateur régulier des Pieds sur Terre. Ce n'est pas pour autant une émission corpo, mais l'illustration de l'argument dit de la pente glissante. Si même les journalistes ne sont plus à l'abri des violences policières, que la liberté d'informer est autant en danger que celle de manifester, alors imaginez les simples citoyens, les lycéens, les ouvriers, les manifestants. Reportage tout de suite, Clément Baudet et Rémi Dibowski-Douette.
Je m'appelle Clément, j'ai 34 ans et j'habite à Marseille. Je suis journaliste indépendant, ça fait pas mal d'années que je travaille pour la radio. Et je travaille en ce moment sur un projet autour des questions liées à l'eau. Et j'avais suivi de loin le combat du collectif Bassines Non Merci, qui s'oppose depuis plusieurs années aux méga-bassines. En fait, les méga-bassines, c'est des dispositifs de stockage de l'eau en surface. C'est des dispositifs qui fonctionnent en puisant de l'eau directement dans les nappes phréatiques pour les stocker en surface dans des sortes de grandes bassines en fait. C'est des grandes piscines énormes bâchées en surface et c'est des dispositifs qui profitent en fait à certains agriculteurs sur place au détriment de la faune, de la flore et de plein d'autres paysans autour. Et il faut savoir que c'est des dispositifs qui sont financés en très grande partie par les pouvoirs publics. Et donc il y avait une mobilisation qui était organisée le 25 et le 26 mars dans le Poitou. En fait, c'était une grande mobilisation internationale autour de l'eau, avec des conférences, des rencontres, des débats, des projections de films et une manifestation prévue le samedi. Et je trouvais que c'était important d'y être en tant que journaliste, mais aussi en tant que citoyen, parce que comme beaucoup de gens, je suis assez préoccupé et inquiet par les sécheresses, par les questions liées au changement climatique, qui est un peu lié au capitalisme effréné dans lequel on se trouve en ce moment. Donc je suis parti de Marseille le jeudi avec ma voiture, j'ai pris ma carte de presse, mon micro. Je suis arrivé le vendredi en fin de matinée, c'était sur un terrain nu dans les champs, juste à côté du petit village de Vanzé. Quand je suis arrivé, il y avait des chapiteaux qui avaient déjà été montés, il y avait une radio éphémère qui avait été montée spécialement pour l'occasion, qui s'appelait Méga Radio. Il y avait même un espace garderie pour des personnes qui venaient avec des enfants. Enfin voilà, c'était assez super structuré. Dans l'après-midi du vendredi, il y a des agriculteurs de la Confédération paysanne qui ont rejoint ce camp-là avec leurs tracteurs. Certains qui venaient du Jura, il y avait des agriculteurs qui venaient d'Ariège. Il y avait pas mal d'étudiants aussi qui avaient l'air de venir de Rennes, de Toulouse, de Paris. Et le soir, à la nuit tombée, il y a eu une grande AG d'organiser sous un des grands chapiteaux. Le lendemain matin, je me suis fait un petit café. Et ensuite, voilà, la manifestation, elle est partie vers 10-11 heures.
Pas de bassine ! À Sainte-Soline, la guerre de l'eau a commencé, on se battra pour la guerre des bassines, tout le monde déteste les bassines.
C'était assez bonne ambiance, il y avait un truc qui m'a fait assez marrer aussi, c'est qu'il y avait pas mal de gens avec des bouées gonflables en forme d'animaux, donc il y avait des licornes, il y avait des tortues, il y avait des requins, et des gens portaient ça en fait le long du cortège. Donc d'après les organisateurs, les organisatrices, il y avait 30 000 personnes qui étaient là à ce rassemblement-là pour la manifestation, et 6 000 selon la préfecture. Il faut savoir que le dispositif du maintien de l'ordre, il était quand même assez impressionnant. Il y avait plus de 3200 agents des forces de l'ordre qui étaient déployés autour de cette manifestation. Certains ont vu des gendarmes mobiles sur des quads. Il y avait voilà des cordons de fourgons de gendarmes et des gendarmes aussi placés au-dessus de la bassine. Et en fait, voilà, toutes les forces de l'ordre ont en fait protégé cette bassine qui est en fait un trou. En fait, c'est un cratère vide où il y avait rien à l'intérieur. Et puis le cortège s'est dirigé vers les méga bassines. Et là, les forces de l'ordre sont apparues et ça a été méga violent. Il y a plus de 5000 grenades qui ont été tirées en quelques heures par les forces de l'ordre.
Le soir, j'ai appris qu'il y avait 200 blessés du côté des manifestants, dont 3 en urgence vitale, et qu'il y avait 47 blessés du côté des gendarmes.
Moi, j'ai pris ma voiture et je me suis dirigé vers le village de Mel. C'est au village de Mel qui était prévu le rassemblement du soir. Et là-bas, l'ambiance était quand même assez grave. Il y a eu une minute de silence qui a été faite en soutien aux personnes blessées. Personne n'avait jamais vu ça, en termes de tirs, de violence. Les gens étaient sidérés, en fait, de ce qui venait de se passer. Le lendemain matin, le dimanche, moi, je suis passé dans le centre du village de Mel pour prendre un petit café et j'ai pris ma voiture pour rentrer. En sortant du village de Mel, je me suis fait arrêter par les gendarmes. Contrôle d'identité, contrôle des papiers du véhicule. Donc voilà, moi, je leur donne ces documents-là, je leur montre aussi ma carte de presse. Je leur montre mon micro que j'avais dans l'habitacle de la voiture. Ça n'a pas l'air de trop faire grand-chose. Et donc, ils demandent à fouiller mon véhicule. Voilà, je pensais que ça allait s'arrêter là. Mais ils m'ont dit qu'ils allaient faire une révélation de substances criminalistiques. Alors là, j'avoue, j'étais un peu bon, ok. Je savais pas du tout ce que c'était, ce truc-là. Donc, en fait, ils m'ont demandé de me mettre contre le mur, de fermer les yeux, parce que ça pouvait être dangereux pour ma santé. Et ils ont passé une petite lampe, comme une lampe de poche, un peu une lampe UV, sur tous mes vêtements, sur mes cheveux. Et ils m'ont dit, en fait, que cette petite lampe UV pouvait détecter de l'ADN. Que ça s'appelait des PMC, des produits marque encodés. Et en fait, c'est une technique de marquage biologique à partir d'ADN de synthèse. C'est un produit qui est indétectable, à l'œil nu, qui est incolore, qui est inodore, qui sont donc tirés par les forces de l'ordre sur les manifestants avec un fusil EMF-100 équipé d'un télémètre qui aurait une portée, une précision à 30-40 mètres. Et qui diffuse une sorte de petite bille contenant de l'ADN de synthèse pour marquer les manifestants et les manifestantes, et qui peut rester a priori très longtemps sur les vêtements ou sur la peau. Et ils ont vu des petites traces sur le col de mon sweat. Alors je leur ai demandé, mais qu'est-ce que c'est et tout. Ils m'ont dit, c'est de l'ADN, mais ça peut être aussi le vôtre. Ça peut être de la salive que vous avez séchée sur le col ou d'autres substances contenant de l'ADN. Et à ce moment-là, ils m'ont dit qu'il fallait qu'ils fassent des tests un peu plus poussés et qu'il fallait que je les suive à la gendarmerie. Donc voilà, moi je les ai accompagnés dans la voiture jusqu'à la gendarmerie dans le village de Mel. Ils m'ont refait passer cette petite lampe à UV sur moi. Donc pareil, ils m'ont demandé de fermer les yeux parce que ça pouvait être dangereux pour ma santé. Puis j'avais l'impression que le gendarme qui faisait ce test-là savait pas vraiment ce qu'il devait trouver. Ils avaient pas l'air de vraiment bien savoir se servir de cette petite lampe à UV. À un moment donné, le gendarme qui passait cette petite lampe sur moi a appelé un collègue. Il savait pas si les traces devaient être bleues ou vertes ou jaunes. Enfin, ça cafouillait pas mal. Un autre gendarme est venu me repasser cette petite lampe à UV et il galérait à trouver des traces. En fait, il savait pas vraiment s'en servir. Donc là, ils m'ont fait attendre une vingtaine, trentaine de minutes. Et il y avait un CRS qui était là pour m'escorter ou me garder. Je ne savais pas trop à ce moment-là. Et donc, le temps d'attendre, moi, j'ai discuté un petit peu pour savoir... j'ai fait le journaliste, quoi. Je leur ai demandé un peu comment c'était passé pour eux la veille. Et le CRS m'a confié qu'en fait, il n'avait jamais vu un tel dispositif de maintien de l'ordre, que lui avait halluciné aussi des moyens qui avaient été déployés. Mais bon... Voilà, que neutralité, ils pouvaient pas trop m'en dire plus. Après, il y a d'autres gendarmes qui sont venus me mettre dans une pièce sombre, sans fenêtre, dans la gendarmerie. Et là, ils m'ont dit qu'ils allaient refaire ce test-là avec cette petite lampe. Et à ce moment-là, ils m'ont demandé d'enlever d'abord mon t-shirt, puis ensuite mon pantalon, pour pouvoir passer cette petite lampe sur mes jambes, sur mon torse, sur mes bras. Donc là, je me suis retrouvé en caleçon... avec des gendarmes qui, a priori, ne savaient pas trop ce qu'ils devaient chercher sur moi. Donc, c'était humiliant, mais c'était surtout lunaire, quoi. Moi, je comprenais pas du tout ce qui se passait. Pour le coup, ils m'avaient redemandé de fermer les yeux, mais ça commençait à être long. je commençais à être un peu saoulé. Donc là, pour le coup, j'ai ouvert les yeux parce que je voulais vraiment comprendre ce qu'il cherchait exactement, quoi. Et à ce moment-là, j'ai vu que le gendarme a tiqué sur mes mains et il a vu une petite marque de 2 cm, une marque assez nette qui était de couleur jaune-verte sur le dos de ma main droite. Et il semblait assez content d'avoir trouvé cette marque et il l'a prise en photo. Et à ce moment-là, le gendarme a dit « c'est positif » à son collègue et c'est tout. Donc là, je me suis rhabillé et ils m'ont fait attendre dans une salle. Là, je savais pas trop ce que je devais attendre, mais ils m'ont dit qu'il y avait des experts qui allaient arriver pour faire des investigations plus poussées, quoi. Peut-être une demi-heure après, il y a des agents de l'IRCGN, de l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale, qui sont arrivés, qui m'ont refait passer ce test-là avec leur petite lampe UV, et qui m'ont dit qu'ils allaient faire des prélèvements de cette trace-là. L'agente de l'IRCGN a sorti un coton-tige, un peu comme les écouvillons là, de test Covid, et a gratté avec cet écouvillon la trace pour prélever en fait un petit peu de matière de cette trace-là, quoi. Et après, elle m'a dit, bon, ben, on prend ça pour analyse. Ils ont remballé toutes leurs petites valises et eux, ils sont partis. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, bon, ils ont fait toutes leurs investigations, ils ont récupéré leurs substances criminalistiques. Voilà, il n'y a pas de raison. Enfin, voilà, ils vont me laisser repartir tranquille et je vais pouvoir reprendre ma voiture, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un office de police judiciaire qui est arrivé dans la gendarmerie et qui m'a notifié ma garde à vue, quoi. Au motif de l'infraction suivante, c'est participation à un groupement en vue de la préparation de violences volontaires contre des personnes ou de la destruction ou dégradation de biens. Donc c'est passible quand même de 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Là, j'ai été sidéré, quoi. L'office de police judiciaire m'a dit que je pouvais appeler un ou une avocate et que je pouvais prévenir quelqu'un de mon entourage. Donc je lui file le numéro de ma copine qui l'a appelé pour lui notifier ma garde à vue. Et c'était parti pour 24 heures. Ce qui était dingue, c'est qu'en fait, ils étaient au courant que j'étais journaliste. Je leur avais montré la carte de presse lors du premier contrôle. Donc en fait, les gendarmes qui m'ont fait tous ces tests-là savaient très bien que j'étais journaliste. Et ça les a pas empêchés de me mettre en garde à vue comme ça, juste pour une petite trace sur le dos de ma main, quoi. L'office de police judiciaire m'a demandé de monter dans sa voiture et ils m'ont amené dans une autre gendarmerie pour faire des prises d'empreintes. Et après, ils m'ont dit qu'il fallait faire aussi le prélèvement biologique, prélèvement d'ADN. Là, j'ai refusé parce que je trouvais que c'était complètement délirant, complètement intrusif et arbitraire. Donc l'office de police judiciaire m'a renotifié une infraction. Parce qu'il faut savoir que le refus de prélèvement ADN, c'est passible d'une infraction. Donc voilà, à ce moment-là, hop, une autre infraction qui s'ajoutait à la première notifiée à la gendarmerie de Mel, quoi. Et puis les gendarmes m'ont demandé aussi de me prendre en photo. Voilà, j'ai obéi. Donc c'était photo de face et de profil dans un couloir blanc, comme aux États-Unis, quoi. Il manquait juste le petit carton avec mon numéro de détenu, quoi. C'était complètement fou. Donc voilà, moi j'ai même souri parce que j'étais un peu en mode, je comprends. Non, ils m'ont dit non, il faut pas sourire, rester neutre. Donc voilà, j'ai fait ça. Et ensuite, les gendarmes m'ont amené à la gendarmerie de Vouillé, à côté de Poitiers, et c'était à environ 1 heure de route, quoi. Et arrivé à la gendarmerie, ils m'ont montré la cellule. C'est une pièce de 5 mètres carrés, sans fenêtre, avec 2 gros verrous énormes, un petit judas coulissant et un petit matelas. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment pris conscience du truc, quoi. Que j'allais passer la nuit dans une cellule, dans une gendarmerie à Vouillé, quoi. Le soir, vers 20h, il y a mon avocate qui est arrivée à la gendarmerie. Et donc je lui expliquais un peu le fait qu'ils avaient trouvé ces traces de substances criminalistiques sur mes mains. Elle m'a dit qu'elle avait jamais vu de personne mise en garde à vue à cause ou à partir de la détection de ces substances. À ce moment-là, moi, je suis assez serein parce que l'avocate, elle est super compétente, elle me rassure. Et je me dis, bon, voilà, ça va durer 24 heures. Ils vont se rendre compte qu'il y a un problème dans la procédure et le procureur de la République va lever la garde à vue assez rapidement. Donc à ce moment-là, je me dis que ça va se débloquer assez vite. Et le soir, les gendarmes m'ont mis dans la cellule. Ils m'ont dit, nous, on va éteindre la gendarmerie et on revient demain matin, quoi. Donc là, ils ont fermé la porte. Puis voilà, moi, je me suis retrouvé tout seul dans cette cellule pour la nuit, quoi. Et là, j'avoue que c'était un peu le gros moment d'angoisse, quoi. Donc j'ai fait des petits exercices de respiration pour essayer de m'endormir en me disant, bon, ok, c'est bon, la nuit va passer, demain en début d'après-midi, normalement, ta garde à vue, elle est levée, quoi. Et j'ai quand même réussi à m'endormir. Le lendemain matin, après avoir vu mon avocate, je décide que je parlerai pas aux auditions, en fait, que je refuse de participer à cette procédure, que je trouve arbitraire, que je trouve injuste, parce que de toute façon, en fait, je sais qu'ils ont rien dans mon dossier, à part ces petites traces sur mes mains, et donc j'ai pas à m'expliquer, en fait. Donc moi, j'ai tenu ma ligne et j'ai rien déclaré à l'office de police judiciaire qui me posait des questions. Des questions d'ailleurs assez absurdes, ils me demandaient depuis quand j'étais dans le Poitou, pourquoi j'étais venu dans le Poitou, est-ce que je connaissais les bassines, est-ce que je m'intéressais aux questions de l'eau. L'office de police judiciaire avait pas l'air de trop comprendre en fait ce que je faisais là, il avait pas l'air d'avoir beaucoup d'informations sur le pourquoi de ma garde à vue. Après, il exécutait juste les ordres du procureur de la République. Le procureur de la République avait voulu me placer en garde à vue. Il fallait bien faire une audition et suivre la procédure comme il se devait, quoi. Je savais que ma garde à vue durait jusqu'à 14h10. Et je serais libéré, quoi. Et en fait, à 14h09, l'officier de police judiciaire est venu me chercher dans ma cellule et il m'a dit, voilà, je dois vous notifier la prolongation de 24 heures de votre garde à vue décidée par le procureur de la République. Et là, j'avoue, j'ai commencé à être en colère, quoi. Donc, je retourne en cellule et puis j'attends, quoi. Et vers 18h, le lundi, il y a l'officier de police judiciaire qui est venu et qui m'a notifié ma fin de garde à vue. Et donc là, j'étais hyper content, mais c'est surtout, j'ai demandé, mais pourquoi, en fait? Pourquoi maintenant? Est-ce que vous avez reçu des informations? Et lui, il avait aucune information à me donner. Il m'a dit, bah, écoutez, je sais pas, nous, on nous a dit que la garde à vue était levée, vous êtes libre, quoi. Moi, je trouvais ça complètement ouf, quoi. Donc, j'ai récupéré mes affaires et je suis parti. L'enquête est toujours en cours. Ça n'a pas été classé sans suite, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il peut y avoir une perquisition à mon domicile, je peux être remis en garde à vue et je peux avoir une convocation au tribunal. En fait, ce qui est assez dingue, c'est que c'est vraiment cette petite marque de produit marque encodé sur ma main qui est à l'origine de ma garde à vue. Et ce produit sécherait en 5 minutes. Donc ça veut dire que j'aurais peut-être été en contact avec quelque chose ou quelqu'un qui aurait été ciblé par CPMC lors de la manifestation de Sainte-Soline. Mais en fait, c'est hyper inquiétant parce qu'on a très peu d'informations sur cette nouvelle technologie. Si les gendarmes ont le droit de l'utiliser et de mettre en garde à vue sous prétexte qu'il y a cette petite trace. Et apparemment, d'après moi, ce que j'ai pu voir, et j'en ai été un peu la victime, c'est qu'en plus, ça a l'air de pas vraiment très bien fonctionner. Si on peut se retrouver avec cette substance-là sur les mains parce qu'on a touché quelque chose ou quelqu'un, ça pose de très nombreuses questions, je trouve. Donc moi, aujourd'hui, je suis en colère d'avoir été privé de liberté pendant autant de temps sans raison. Si ce n'est que j'ai une petite marque d'un centimètre sur le bout de ma main. Puis faut pas oublier que moi, j'ai juste été privé de liberté, mais qu'il y a des personnes qui sont dans le coma, puis il y a une personne défigurée. Et c'est ça surtout qu'il faut pas oublier.
France Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Paul Boyer, j'ai 26 ans et je suis journaliste pigiste. Avec un ami, on a décidé de rejoindre le jeudi 23 mars la manifestation contre les réformes des retraites. Donc je suis arrivé à 17h sur la place de l'Opéra en montrant ma carte de presse à un barrage de policiers. Ils étaient très sympas avec moi, ils m'ont laissé passer directement. Et avec mon ami, on a commencé à manifester en fait... sur la place de l'Opéra. Moi, en tant que journaliste, donc j'y étais en tant qu'indépendant, en tant que pigiste, comme on dit. Donc moi, je suis assez habitué à couvrir ces manifestations. Mais dès que je suis arrivé, je sentais qu'il y avait beaucoup de tension, il y avait beaucoup de monde. Et en fait, plus les minutes passaient, plus les manifestants affluaient sur cette place. Donc je faisais un peu le tour de la place, il y avait des jeunes, des plus vieux, des travailleurs. Je me souviens avoir vu des ouvriers de chez Total, d'Engie... des gens qui bossaient en raffinerie, qui étaient habillés de salopettes bleues, rouges, etc. Donc c'était pas qu'une manif de Parisiens. Au loin, on voyait les différents ballons de l'intersyndicale, des gros ballons rouges, jaunes. Bon, tout l'intersyndicale commençait à arriver. Les forces de l'ordre étaient un peu dépassées, il y avait beaucoup de mouvements. Bon, vers 18h, il y a eu les premiers tirs de gaz lacrymogène de la part des forces de l'ordre. Des manifestants aussi assez violents ont commencé à leur jeter des projectiles. Ça commençait à être un petit peu tendu. Ben moi, je me suis dit que j'allais rester pour continuer à voir comment les événements allaient évoluer. Plus les minutes passaient, plus le cortège continuait d'affluer. Et en fait, avant que la nuit tombe, vers 18h30, il y a eu les premières charges de policiers. Et après, vers 19h, les charges ont été très violentes. Donc les manifestants ont été repoussés derrière la place de l'Opéra, en direction des grands boulevards. Et c'est à ce moment-là où, avec mon ami, on s'est dit « Bon, c'est trop costaud, on va commencer à se diriger vers la suite du cortège et allons vers les grands boulevards, Bonne Nouvelle, Strasbourg-Saint-Denis et pourquoi pas République. » En tant que journaliste pigiste, j'ai couvert plusieurs manifestations en France depuis maintenant 3-4 ans, notamment tous les actes des Gilets jaunes à Paris et en région. Je travaille aussi avec un de mes confrères sur le continent africain, notamment en Afrique de l'Est. Ce qui est fou, c'est qu'en ayant couvert des manifestations en Afrique, en Haïti ou même en Algérie durant le Irak en 2019, ce jour-là, ce jeudi 23 mars, c'était une manifestation qui était encore plus violente que ce qu'on pouvait voir à l'étranger dans des pays pas démocratique finalement. J'avais rarement vu un tel niveau de violence dans une manifestation française. Alors ensuite, la nuit commence à tomber, je me dirige vers la place de la République pour continuer à prendre des photos, parler avec des manifestants. Et vers 21h, on se trouvait au niveau du boulevard Beaumarchais. Et sur le trottoir où j'étais, il y avait une centaine de manifestants, assez calmes, assez pacifiques. À ce moment-là, je m'en souviens très bien, en fait, je discutais avec une manifestante qui avait une cinquantaine d'années, de la réforme de retraite, de ses revendications, elle m'explique sa vie, etc. On n'a pas le temps de discuter très longtemps, à peine 2 minutes. Il y a une dizaine de motos de la Brave M qui déboulent très rapidement devant nous. C'est des hommes qui sont habillés tout en noir, casqués, un peu comme des Robocop, donc ils sont avec une petite armure de policier, des gants renforcés et une matraque. Et ils se déplacent tout le temps à deux, en moto, pour être plus mobiles finalement. Dès qu'on les voit arriver, on se fait tout de suite encercler. En quelques secondes, ils sont descendus des motos, et ont commencé à dire à tout le monde de partir, tout en nous encerclant. Donc en fait, ils se rapprochent vers nous, et là, automatiquement, sans qu'on ait eu le temps de réagir, ils commencent à nous frapper un par un peu à l'aveugle. J'ai vu déjà la manifestante à qui je parlais, qui était par terre. Elle avait du sang sur le visage. Et dans tout ce chaos, moi j'ai essayé de sortir, comme on dit, le précieux sésame, donc la carte de presse qui est dans ma poche gauche de mon imperméable, pensant naïvement que ça allait me protéger. Je la montre à l'officier qui est en face de moi, le policier. Mais là, j'ai pas le temps de réagir, il commence directement à me frapper. Je reçois un coup derrière le crâne. Je réalise pas tout de suite, en fait. Après ce coup-là, j'étais toujours debout, il y avait une cohue autour de moi, et ce même policier m'assène 2 coups vers le visage. Donc là, je sais pas comment, mais j'ai eu le réflexe de mettre ma main gauche juste ici, au niveau du front. Et lors du premier coup sur ma main, le coup était tellement fort, j'ai senti que ma main était broyée directement. Et cette main gauche, donc, qui a été fracturée, a protégé mon visage, en fait. Et dans une sorte d'instinct de survie, je suis pas tombé, je suis resté debout, et j'ai réussi à m'extirper de la cohue pour directement, en fait, prendre une rue adjacente et partir. Là, la douleur n'était pas encore très forte, mais au bout de quelques minutes, en fait, j'ai fumé une cigarette et j'ai commencé à voir, ça c'était un peu flippant, que ma main doublait de volume. Donc j'avais mon scooter dans quelques rues à côté. Je l'ai garé près de la Madeleine, parce que je sais que lors de ces manifestations, des véhicules peuvent brûler. J'ai pris mon scooter pour aller aux urgences, après m'être fait matraquer dans Paris avec une main cassée. J'arrive aux urgences, il est aux alentours de 22h30. Donc j'ai rencontré un médecin de garde de nuit qui m'a fait passer une radio. J'avais une fracture de la main gauche. Ensuite, je me suis fait opérer le lendemain. Alors donc le chirurgien, quand j'étais sur le billard, lui il envoie beaucoup des mains fracturées, des mains explosées. Mais ce qui l'a beaucoup choqué en fait, c'est que ça me soit arrivé en fait en manif à Paris durant mes heures de travail. Et les deux chirurgiens, je me rappelle, ainsi que l'anesthésiste, ont été complètement outrés. Il y en a même un qui m'a dit « c'est honteux de devoir soigner des concitoyens victimes de violences policières ». Parce que je ne suis pas le premier qu'ils reçoivent dans leur service à cause de violences policières. Moi, je m'estime quand même chanceux par rapport à d'autres manifestants qui étaient à côté de moi, qui étaient par terre, qui avaient du sang sur le visage, de m'en sortir en fait qu'avec une main cassée. Ça aurait pu être bien pire en fait, parce qu'une... Un coup sur le visage, une cicatrice sur le visage, on s'en remet jamais vraiment, je pense. Au sortir des urgences, j'étais très énervé, en fait. Ce que je trouve fou, c'est que ces policiers, en fait, ils ne font aucune différence entre un journaliste professionnel qui vient pour bosser et des manifestants violents qui viennent pour en découdre. Je trouve ça assez dangereux, en fait, parce que si on n'est pas là... Enfin putain, qui va être là pour raconter ce qui se passe, quoi. Donc ça, je trouve ça assez inquiétant. Et j'ai allumé Twitter, en fait, et j'ai fait un tweet très rapidement. Je me suis même pas relu. Il dit, en fait, que j'ai été frappé à 21h boulevard Beaumarchais en ayant montré ma carte de presse par un policier de la Brave. Et je précise même que depuis plusieurs années, je couvre des manifs à l'étranger en France. J'avais jamais été ciblé si directement en tant que journaliste. Donc je lance le tweet, je vais me coucher. Le lendemain matin, il y a presque 2 millions de vues sur ce tweet. Déjà, j'ai eu un énorme soutien de toutes les rédactions avec lesquelles je bosse, mais aussi de plein de syndicats de journalistes, de plein d'organisations internationales de journalistes qui m'ont tout de suite contacté. Reporters sans frontières aussi m'a appelé. Et en fait, comment dire, moi, je trouve ça bien et sain que le reste de la profession continue de se scandaliser. Parce qu'en fait, si ça devient normal, si on n'en parle plus, si on le banalise... Alors là, c'est très compliqué, comment dire, parce que souvent, c'est des reporters et journalistes qui sont assez jeunes qui vont sur le terrain, et malheureusement, c'est de plus en plus violent, c'est de plus en plus dangereux, et donc c'est nécessaire que chaque rédaction prenne conscience de ce danger-là, pour pas envoyer au casse-pipe des petits jeunes sans expérience, finalement.
C'était violence policière, j'ai montré ma carte de presse et ça n'a rien changé. Un reportage de Clément Baudet, Rémi Dibowski doit être réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Alice, à Maître Chalot, à Chouchou, Diamant, Philippot, Adèle, Antoine Chao, à la famille Lagarrigue, Ballard et à Lionel Thompson ainsi qu'à Paul Boyer. C'est Céline Paris, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et c'est Rita Ruggirello, notre stagiaire.